Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Justice, et c'est ce titre qui nous ouvre la deuxième heure de soundtrack ce matin, et c'est une séquence ici que l'on démarre pour les Rolling Stones, puisque c'est le 20e anniversaire de l'album A Bigger Bang. C'est un album dont nous allons parler avec Dominique Raguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Alors c'est un album, moi je me souviens à l'époque, lorsqu'il était sorti, j'avais écouté la spéciale qui avait été consacrée à la sortie de cet album, qui était annoncée comme un retour aux sources. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, 20 ans plus tard?
Là, je dirais, on va replonger dans cette époque, hein, 2005. Les Rolling Stones, à l'époque, ont déjà plus de 40 ans de carrière derrière eux, et beaucoup, c'est vrai, les imaginent un petit peu fatigués, incapables de retrouver cette fougue, justement, des 70s.
Ils ne pouvaient pas s'imaginer que 20 ans après, ils allaient toujours être là.
À ce moment-là, vraiment pas. À l'époque, l'âge aussi entre 63 et 58 ans, 58 ans pour Ron Wood et 63 pour Charlie Watts, et pourtant, c'est à ce moment-là qu'ils sortent peut-être ce qu'on peut appeler leur dernier vrai disque Bigger Band. C'est un album qui marque le retour d'un son effectivement brut, avec plein d'énergie, enregistré. Un petit peu comme aux origines, si rétrospectivement, ce 22e et dernier album des Rolling Stones. Alors quand je dis dernier album des Rolling Stones, parce qu'en 2016, Blue and Lonesome, 11 ans plus tard, c'était un album de reprise. Et puis, il y a évidemment l'excellent Hackney Diamond, sorti maintenant presque deux ans. ans. Ouais. Et Charlie Watts ne joue que deux titres sur cet album et un seul morceau avec Ron Wood. Et puis c'est vrai que c'est presque un album collectif, hein, ce dernier album des Rolling Stones, avec Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, et même Bill Wyman qui était revenu pour un des morceaux bassiste historique des Rolling Stones, faut-il le rappeler, de 62 à 1993, et qui a été remplacé par Darryl Jones, qui est là depuis Voodoo Lounge. Alors, le contexte, c'est vrai, est un petit peu particulier, parce qu'il sort de cette déjà grosse tournée Fautilix, qui était passée par Werther en septembre 2003.
Qui a donné lieu à un magnifique coffret, en plus.
En plus, ouais. Et puis l'album précédent, c'était Bridges to Babylon, qui date de 1997, donc 8 ans de silence, ininterrompu, seulement par ces énormes tournées monumentales. Alors quand Bigger Bang voit le jour, en septembre 2005, hein, il y a 20 ans, c'est quand même un énorme événement, d'autant plus qu'il sort au milieu d'un paysage, je dirais, musical assez dominé par le hip-hop, la R&B.
On en trouve d'ailleurs, je pense qu'il y a eu des samples aussi sur...
Il y a quelques petites touches, mais c'est très 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 légère. À cette époque-là, c'est vrai que le rock... Bah oui, il y a les retrouvailles de Pink Floyd pour le Live Aid, oui. Deux mois plus tôt. Effectivement, il y a Paul McCartney qui, une semaine plus tard, sort son album qui a été réalisé avec le producteur Nigel Godrich, qui a surtout travaillé avec les Radiohead. À ce moment-là, les Rolling Stones doivent encore prouver leur place. Hein. Et puis, quand on écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spontanéité dans la manière dont ça a été réalisé, cet album. C'est suite à de longues conversations entre Mick, Keith et Don Was qu'ils ont décidé de travailler. Comment ils allaient travailler cet album? Parce qu'au départ, en fait, Mick Jagger voulait plutôt un album enregistré dans un studio, qu'on se soit à Londres ou à New York. Et Keith et Don Was avaient plutôt envie du côté résidence. Un petit peu comme ils l'avaient fait pour Steve Kiefinger, par exemple, se retrouver à Nellcott, sur la Côte d'Azur. Et puis, finalement, après discussion, ils vont s'installer où ça? Au château Fourchette, qui est le château de Mick Jagger, qui se trouve juste en face d'Amboise, le long de la Loire. Même s'il y a une partie de l'album qui a aussi été enregistrée dans la villa de Keith Richards à Villers-sur-Rollon, en Suisse. Et puis, surtout, derrière tout ça, il y a quand même le travail de Don Was, qui est aux côtés de Rolling Stones depuis Voodoo Lounge. Et puis, c'est quelqu'un, Don Was, qui a su vraiment capter l'énergie des Rolling Stones sans déformer en fait le son Rolling Stones, même si lui vient de ce qu'on peut appeler quelque chose d'assez funky et pop, hein, puisque c'était le groupe Was Not Was, pour ceux qui se souviennent, avec Walk the Dinosaur, mais ça c'est un petit peu sautillant, une petite pépite pop mais sans prendre envergure. Mais pourtant, Don Was au début des années 80, c'est Was Not Was, et c'est presque de la P-Funk avec vraiment un gros travail sur l'esthétique en fait. Puis c'est quelqu'un qui joue aussi bien du clavier que de la basse, et donc il a su donner cette énergie. Preuve en est notamment avec un autre morceau, c'est le troisième morceau de cet album où on retrouve un Mick Jagger qui chante de façon presque animale. C'est le titre It Won't Take Long, et là c'est du 100% Rolling Stones.
Yeah.
I Won't Take Long, et évidemment tous ces morceaux qui sont aussi agrémentés des riffs ravageurs de Keith Richards, bien évidemment, et donc toujours tirés de cet album A Bigger Bang, l'on met à l'honneur hein, donc ce matin pour son 20e anniversaire. On en parlait, on était en 2005, alors aujourd'hui, bon ben on sait que l'administration présidentielle américaine ne fait pas que des heureux, hein, même parmi le peuple américain, mais déjà à l'époque, là c'était l'époque de l'administration Bush, et il y a une chanson qui, je ne sais plus laquelle, mais où on
entend... Sweet Neocon.
Ça doit être ça, oui.
C'est Sweet Neocon.
On entend même Mick Jagger qui dit crack of shit, pour parler en tout cas de...
C'est un pamphlet contre Bush et surtout contre les ultra-conservateurs. D'ailleurs, c'est un morceau qu'ils n'ont pas toujours joué lors des concerts américains.
Bah oui.
Oui, mais bon, parfois, il faut oser.
Il faut oser.
Il y a des groupes comme Green Day ou même Bruce Springsteen qui, eux,
oui,
osent.
Et même Neil Young qui, lui, vient de sortir un morceau carrément, où ils disent ce qu'ils pensent. Enfin bref, on va revenir sur le sujet ici de cet album.
Parce que c'est intéressant, ici, le morceau qu'on vient d'entendre, Ifon Belang, troisième morceau de cet album, qui n'a pas été un single, mais qui reflète, à mon avis, assez bien l'esprit de cet album. Et puis rappeler que c'est Chuck Leavell qui est au clavier, il y a Ron Wood qui est derrière sa guitare pour accompagner Keith, et puis surtout, il y a Darryl Jones à la basse, parce qu'il y a quand même quatre morceaux sur cet album où la basse est tenue par Mick Jagger. Mm-hmm. Et même de la batterie, il y a un morceau sur lequel Mick Jagger, parce qu'au départ...
On l'oublie souvent, hein, mais il joue de la guitare, de la basse, de l'harmonica, très bien d'ailleurs.
Oui, c'est vraiment le travail de ce qu'on a appelé le retour quelque part des Glimmer Twins. Hein. Glimmer Twins, ça c'est le surnom qu'on donne au tandem Keith et Mick. Le tandem qui sait faire du Rolling Stones. Mais bon, ici, c'est vrai qu'il y a quand même le travail de Don Was qui sait vraiment canaliser cette énergie. Hein. Je crois que le rôle de Don Was a été de ramener à l'essentiel. Hein. Pas besoin. Et ça s'entend sur cet album d'empiler des couches et des couches et des couches. Hein. C'est juste un jeu direct pour, et je crois que Don Was a insisté pour retrouver ce mélange de blues, de rock, même de garage. Il y a certains morceaux qui sonnent comme ça un petit peu garage band, et puis il y a aussi quelques airs qui sont un peu plus groovy, et quand on parle de groove on parle aussi de jazz. C'est au moment aussi où Charlie Watts, après l'énorme tournée Forty Licks, s'était amusé, enfin il s'était fait plaisir en partant dans une tournée jazz qu'il avait dû interrompre parce que le diagnostic était tombé. Cancer de la gorge, et il avait commencé son traitement, sa chimio. Et donc Charlie Watts n'arrive que au début de l'enregistrement de cet album, il arrive un petit peu après.
Et Charlie Watts, qui au départ est un batteur de jazz, et il avait même déclaré, le seul groupe avec lequel j'ai envie de faire du rock, c'est les Rolling Stones, parce que sinon, c'est un batteur de jazz.
Oui, et puis aussi, quand on parle de batteur, c'est là qu'est arrivé Steve Jordan, hein, sur quelques sessions justement au début, et qui reprendra le flambeau après la disparition de Charlie Watts après son décès, donc autre aventure avec... c'est vraiment le dernier album avec Charlie Watts. Et puis, à ce moment-là aussi, Ron Wood est en pleine cure de désintoxication, ce qui fait qu'il n'apparaît que sur 10 titres sur les 16 de l'album. Alors, on l'a entendu, hein, c'est un album qui s'ouvre avec ce Wrath Justice, qui avec son riff, avec sa batterie martiale. Et là, avec ce premier morceau, le message était clair, c'est vraiment retrouver cette puissance. Cela dit, c'est un album assez hybride. Hybride parce que effectivement il y a le son Rolling Stones, il y a des morceaux par exemple aussi très très bluesy, je pense par exemple au titre Back of My Hand, qui est un morceau qui fait penser à des vieilles productions tout droit sorties d'un studio de Chicago. Il y a aussi, bon on l'a dit un instant, des morceaux un peu plus engagés comme ce Sweet Neocon, avec des ballades, deux titres chantés par Keith Richard, et puis c'est vrai que c'est un disque qui a relancé la machine Rolling Stones, puisqu'après ça, ça a été l'énorme tournée, A Bigger Bang Tour, qui pendant très longtemps a été la tournée la plus rentable de l'histoire du rock, puisqu'à l'époque, la tournée avait récolté un peu plus d'un demi-milliard de dollars.
Et
cette place avait été détrônée par U2 avec sa tournée 360.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a plus de 140 concerts avec justement des configurations différentes, parfois des toutes petites salles, comme par exemple le Beacon Theatre à Broadway, où Martin Scorsese avait posé ses caméras pour les filmer ce soir-là. Ce qui a donné lieu à ce documentaire film Shine a Light.
Ouais.
Et puis, évidemment, des énormes salles, voire carrément des plages, puisque durant cette tournée Bigger Band Tour, il s'était arrêté sur la plage de Copacabana à Rio. Et c'est un des plus grands concerts de l'histoire. Et d'ailleurs, qui a aussi été immortalisé en live et sur CD. Et puis, ils étaient passés par la Belgique. Souvenez-vous, c'était le 5 juin 2007 avec en première partie Van Morrison. Et puis, tournée qui s'était terminée à l'O2 de Londres. Bref, mais aussi une tournée qui avait été un petit peu interrompue puisque Keith était tombé d'un palmier, je ne sais pas si vous voulez ça.
Du cocotier.
Cocotier, et normalement il devait jouer au stade Roi Baudouin, puis finalement ça a été à Werther. Une tournée quand même assez prestigieuse, puisqu'en première partie, par exemple pour San Francisco, ils avaient ni plus ni moins que Metallica en première partie.
Ouais.
Et puis il devait y avoir aussi Guns N' Roses pour la première partie pour les concerts allemands, et puis justement à cause de la chute de Keith, eh bien, ça avait été annulé.
Ce dont évidemment Keith Richards parle aussi dans sa biographie, avec des mots assez savoureux parce que il manque véritablement pas d'humour. Enfin bref, c'est à lire si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire cette biographie. Je vous la conseille véritablement. Bon, bah écoutez mon cher Dominique, on va tout doucement refermer la séquence. Il y a un titre évidemment qu'on ne peut pas contourner parce que ça a été aussi un gros succès en marge de l'album, c'est Rainfall Down.
Oui, le morceau le plus funky de l'album. Alors c'est une chanson qui parle de Londres en fait. London, c'est pas le swinging London que veut essayer de rendre en musique, c'est surtout Mick Jagger, mais c'est le jazzy London que veut rendre en musique Mick Jagger sur ce morceau qui est vrai un petit peu groove et qui fait penser un petit peu à Miss You. Bon voilà.
Effectivement, oui, on peut quelque part un petit peu plus, on va dire plus, allez, décontracté peut-être encore.
Nonchalant.
Nonchalant, oui, c'était le mot que je cherchais. Merci Dominique.
Et la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Classique 21 Soundtrack.
Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was spick and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. Kissed me on the cheek, and I turned on her TV.
tout groovy pour vous déhancher chez vous aussi, entre le frigo et la table du petit déjeuner, encore à cette heure-ci. Rainfall Down qui vient clore donc la séquence ici consacrée à l'album Bigger Bang des Rolling Stones.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.